Alors la route d'Emmaüs, bah, d'abord il y a une question que tous les chrétiens se posent, c'est où se trouve la maison de Cléophas. Toutes les maisons de Cléophas qui ont été retrouvées à travers les différents siècles des pèlerinages chrétiens. Le premier lieu d'Emmaüs, vénéré par les chrétiens à l'époque byzantine, se trouve du côté de la trappe de Latroune. Mais c'est un peu loin, ça fait 160 stades, alors que le texte, semble-t-il, est 60 stades de texte original. Il semble bien que ce soit Origène qui soit à l'origine de cette tradition-là. Il travaillait à Césarée, la grande bibliothèque, il faisait les exemples, là, il mettait en colonne les différentes versions dont il disposait, et il connaissait bien la Bible. Il dit, la bataille d'Emmaüs qui est raconté dans le livre des Maccabées, c'est là-bas, je sais bien où est Emmaüs, donc ça n'est pas 67, c'est 160. Il y a toute une série de manuscrits là qui ont une correction. Alors, la tradition s'est enracinée là-bas à l'époque byzantine, et il y en a encore maintenant qui veulent prouver que c'est là-bas. Ils font l'aller-retour une fois par an, là, un peu au pas de course, un véritable marathon. Je sais pas, ça favorise beaucoup la réflexion, l'exégèse et l'herméneutique. Alors, il y a un deuxième Emmaüs qui est arrivé après. C'est l'Emmaüs lors d'Abou Gosh. Nous terminons habituellement l'expérience de la BST par l'Eucharistie, là-bas, la fraction du pain, là-bas. Ça a déménagé au Moyen-Âge, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas du tout pourquoi. Enfin, il y a un fait, c'est qu'au Moyen-Âge, il y a une source là, sur la route que faisaient les pèlerins qui débarquaient à Jaffa, vers Jérusalem. Et les pèlerins avaient l'habitude de faire escale là, et de vénérer là Emmaüs. Mais voilà qu'un bandit, un certain Abou Gosh, s'est installé là, rançonné les pèlerins. Les pèlerins n'ont pas envie de payer plus qu'il ne faut. Ils ont cherché une autre route. Et les lieux saints se déplacent en fonction des routes de pèlerinage. Alors on a cherché et on a trouvé une autre maison de Cléophas. Et actuellement, on emmène les pèlerins plutôt là-bas à un petit patelin qu'on a là-bas à l'horizon, Koubeïbé, qui domine là-bas les escarpements de la vallée d'Ayalon. De fait, il y a une route romaine qui arrive par là. Et puis, à l'époque moderne, on continue à chercher. Le père Benoît, lui, il voyait plutôt du côté de la grande route là-bas, un endroit qu'on appelle Motsa. Alors, autrement dit, il y a des Emmaüs, il y en a pour tous les goûts. Pour les archéologues, il y a des ruines très intéressantes là-bas, à Latroune. Pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment la belle liturgie, qui aiment la belle architecture, il y a Abou Gosh qui a été repris par les moines du Bec-et-Loin. Ça console de bien des médiocrités architecturales et liturgiques de la cité sainte. On va là-bas pour reprendre le goût au lieu saint. Oui, alors Koubeïbé, ça c'est merveilleux pour ceux qui aiment les beaux paysages. Ça domine la descente de Bétoron, qui est un des sites les plus riches en souvenirs, on en parlera tout à l'heure. Et puis alors, supposons un guide qui, après un itinéraire un peu pressé, là, part de Jérusalem et doit conduire ses clients à l'aéroport à 4h du matin. Il se rappelle tout d'un coup qu'il n'a pas encore eu l'occasion de parler d'Emmaüs. Ben, il peut encore en parler sur la grande route, puisqu'on passe à côté, il n'y a rien à voir, c'est pas la peine de s'arrêter, et puis comme ça, il peut faire une belle conclusion. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts. Bon, mais ce qui est important, c'est de comprendre que la route, c'est pas la maison de Cléophas qu'on nous invite à chercher, c'est une extraordinaire catéchèse eucharistique, montrant le caractère indissociable de la liturgie de la parole et de la fraction du pain, et pour nous faire comprendre que toutes les routes de l'existence sont des routes d'Emmaüs. Lisons plutôt ce texte merveilleux. D'abord, remarquons que c'est une constante, pas dans les livres du Nouveau Testament, que le Christ ressuscité ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. On trouve ça partout. On trouve ça partout. Et dans l'Apocalypse, là, on voit un livre scellé de sept sceaux devant qui tout le monde pleure. Et alors, ne pleure pas. Il a ouvert. Attendez, je lis le texte ici. Je viens. Non, je clamante à vous. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en le lire. L'un des anciens me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira donc le livre aux sept sceaux. Et dans Saint-Luc, là, ça se termine aussi comme ça. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors, le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent au tombeau, la pierre est roulée, elles ne trouvèrent pas le corps, elles étaient perplexes. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, rapporte ça aux 11, hein, et qui pensent que c'est du radotage. Pierre part au tombeau, se penchant, il évoque l'ange. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du long d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha. Et il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui dirent, « Ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comme un de grands prêtres et le chef l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles ont même vu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns d'eux sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Ô cœur sans intelligence, lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait, dit Herménocène. Il leur fit l'herméneutique. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain. Il dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 réunis et leurs compagnons qui dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient connu à la fraction du pain. Et ce signe par lequel converge toute la découverte du Christ. Vous vous rappelez les discours, les gestes, le geste. Et ce geste, c'est à ce geste qu'on le reconnaît après sa résurrection, lorsque les sens ne sont plus habilités à tout de suite à comprendre la réalité de cette présence nouvelle. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et à mon avis, ben, c'est le sommet de la littérature de sagesse. Et ici, nous sommes à l'endroit où Salomon, on parle du tombeau de Samuel, en fait c'est une erreur. On a transporté ici Rama, où Samuel est mort, qui est une colline là-bas, de l'autre côté de la route. On a cru que c'était ici, donc c'est ici qu'il y a le tombeau de Samuel. Il y en a deux, un pour les musulmans et un pour les juifs. C'est une église, veillée de l'époque des croisades. Il appartenait à des prémontrés. Et puis alors, à l'époque musulmane, on a rajouté un minaret, c'est devenu une mosquée. Et c'est vénéré actuellement par les juifs et par les musulmans. Les chrétiens y viennent assez rarement. C'est ici que Salomon se rendait avant que le temple soit construit. Salomon parla à tout Israël au début de son règne et il se rendit au haut lieu de Gabaon. Il semble bien que c'est ici que Salomon se rendait. Et c'est ici que se passe l'épisode que le livre des Chroniques passe pudiquement sous silence. Il a l'occasion tout de suite, Dieu lui dit, lui apparaît, lui dit, demande-moi ce que tu veux et puis je te le donnerai. Alors il demandait la puissance, la gloire, la vengeance aux ennemis. Salomon demande la sagesse. Et le Seigneur est si content qu'il lui donne la sagesse, bon, dont on a parlé à Elat, vous rappelez encore, et par-dessus le marché, il lui donne tout le reste. Et alors Salomon a l'occasion tout de suite d'exercer sa sagesse. Vous avez peut-être feuilleté un peu les livres de sagesse dans la Bible. Il y a des passages extrêmement banals, c'est un peu long. Mais si on prenait plus au sérieux certaines de ces règles de politesse, de courtoisie, peut-être que dans des communautés, aux aspirations mystiques les plus hautes, s'emporteraient mieux. Comme l'échelle de Jacob, c'est bien planté. Et puis ça s'élève très haut. Hein. Et la sagesse, déjà dans l'Ancien Testament, est hypostasiée. Hein. Elle, c'est une créature, mais elle est créée avant la création du monde et elle joue devant Dieu. On a déjà lu ces textes au bord du lac, je ne les relis pas maintenant. Il y a un chapitre qu'il faudrait lire ici, vous le lirez ici. C'est le chapitre 24 d'un livre qu'on appelle le Siracide. Et alors, si vous le lisez, vous retrouverez tout ce que vous avez vu dans le pays. Et puis, la sagesse qui cherche une demeure vient habiter en Israël et à Jérusalem. Je disais chapitre 20. Et la sagesse est hypostasie aussi. C'est un des textes qui frôle déjà le Nouveau Testament lorsqu'on dit au commencement était le Verbe était avec Dieu, était en relation. Le Verbe était Dieu. Alors là, il y a un dépassement considérable, bien sûr. Alors ça, c'est parce que justement la sagesse est bien plantée en terre qu'elle s'élève très très haut. C'est toujours la santé biblique, les chefs de Jacob, partout plantés. Tenez, il y a une magnifique prière là qu'on nous fait lire dans la vie liturgique à l'aude où Salomon invoque la sagesse. Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta sagesse as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il manque la sagesse qui vient de toi, on la comptera pour rien. Avec toi et la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente quand tu faisais le monde, elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Mais au-delà des cieux saints, de ton trône de gloire, envoie-la pour qu'elle me seconde et peine avec moi et que je sache ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. Quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur, car les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible en effet appesantit l'âme et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre et ce qui est à notre portée, nous ne trouvons qu'avec effort, mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert et ta volonté, qui l'a connu, sans que tu aies donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvé. Je cherchais comment l'obtenir, j'allais de tous côtés. Ayant compris que dans sa fréquentation assidue et l'intelligence, je décidais de la prendre pour compagne de ma vie. Mais comprenant que je ne pourrais devenir possesseur de la sagesse que si Dieu me l'a donnée, et c'était déjà de l'intelligence que de savoir de qui vient cette faveur, je m'adressais au Seigneur et le priais, et je dis de tout mon cœur cette prière qu'on vient de réciter ici. On la trouve une fois par mois, là, dans la liturgie des heures, je ne sais plus quel jour. La route d'Emmaüs, c'est ça. Et alors, tous les jours, nous sommes appelés à ce festin de la sagesse. La parole de Dieu, et puis la présence eucharistique. Déchiffrer notre existence, comme ça, au long des jours. Tenez, ici, moi je vais mettre exprès les pieds dans le plat. Nous sommes parvenus à un sommet, etc. Et le paysage nous invite ici à lire de célèbres récits qui se déroulent dans le livre de Josué. Et je m'inspire d'une expérience que nous fait faire l'Église. On dirait qu'elle prend un malin plaisir, après nous avoir menés sur les sommets, par exemple après l'Épiphanie, là, pof, on tombe dans le temps ordinaire. Après la Pentecôte, pof, et puis on tombe dans le livre des Juges, dans le livre de Josué. Et je mets exprès les pieds dans le plat pour exorciser, profiter de ces derniers jours pour exorciser une bonne fois cette tentation de martialisme que nous avons tous. Ici, si vous regardez une carte géologique, c'est extrêmement parlant, mais c'est pas la peine d'éployer la carte. Regardez là-bas à gauche, pas vers le sud, et puis regardez là-bas à droite. Vers la gauche, au sud, les ravins là, du Nahal Sorek, où on appelle d'un même nom tous les ravins là, qui convergent vers un point donné de la côte, là, rongent pas le terrain jusqu'à une de partage des eaux où ça commence à dégringoler vers la mer morte. Il y a juste la place pour une route. Et on a vu, bah, du côté de la gare, là, il y a quelques mètres. Les encombrements là, montrent que la circulation ne se fait aisément que là. Ici, à droite, c'est complètement différent. Et à gauche, là, vers le sud, le Nahal Sorek et tous ses ravins là, rongent le terrain jusqu'à une de partage des eaux, ça dégringole vers la mer morte. Il y a juste la place pour la fameuse route des patriarches, dans cette partie, la route des fratales. Et puis, là, regardez maintenant à droite, vers le nord, hein, vous apercevez là-bas, vous apercevez ce qu'on appelle une doline. Le terrain est calcaire, il y a une espèce de cirque, là, la pluie s'accumule, l'eau dissout tout ce qui est soluble en dessous, ça fait des grottes, les voûtes s'effondrent, et puis on a comme ça une espèce de cuvette, on parle toujours de l'étang de Gabaon, l'étang de Gabaon. Et là vous avez la ville de Gabaon qui est dans une doline extrêmement fertile au centre de la confédération gabaonite dont nous allons parler. Et alors par les chancrures, et si vous regardez la carte géologique, entre la montagne là-bas au nord et puis la plaine côtière, vous avez une région de collines, on va appeler la Chefela, le premier jour on l'a traversée. traversée. Ici, il n'y a plus de Chefela. Et on passe directement de la plaine côtière, prolongée par la plaine d'Ayalon, par une montée, la montée de Bétoron. Et alors, c'est la grande route des invasions. Et cette route, qui est là maintenant la grande route qu'on fait quand on va à l'aéroport, quand on va vers la plaine côtière, elle est très facile en temps de paix, mais en temps de guerre, elle est extrêmement difficile parce qu'elle se faufile dans des défilés et toutes les embuscades sont possibles. En 48, c'est plein de ferrailles encore, de convois de ravitaillement qui ont été anéantis justement par les Arabes, des convois juifs qui essayaient de ravitailler Jérusalem assiégée. Et tandis que de ce côté-ci, alors pas les grandes armées là, les éléphants au temps des Maccabées, c'était les chars d'assaut de l'époque, et puis la fameuse bataille de Josué, là, c'est là qu'il arrête le soleil, tous les Français connaissent ça, l'histoire de la baleine de Jonas, c'est le soleil de Josué, ça fait partie de la culture chrétienne élémentaire. Bon, et alors la plaine côtière se prolonge par la plaine d'Ayalon, il y a la montée de Bétoron, là c'est un petit peu difficile au point de vue stratégique, et puis quand les armées arrivent dans cette plaine de Gabon, elles se reforment, et puis Jérusalem est cuite, parce que Jérusalem vient contrebuter contre des ravins escarpés, là, que vous avez vu, le Cédron à l'est, et puis la Géhenne au sud et à l'ouest, tandis qu'au nord, il n'y a pas d'escarpement, vous voyez. Alors c'est la grande route des invasions, ici, pleine de souvenirs historiques, je n'en évoquerai qu'un, c'est l'histoire de Josué, là. À Shemesh be Gabon, Dom be Yarear be Emek Ayalon. Une chanson de marche, on va lire le texte ici. Je mets exprès les pieds dans le plat, et à partir des sublimités où nous sommes parvenus dans le Nouveau Testament, je fais comme l'Église, je vous plonge dans la sauvagerie des récits du temps de Josué. On a lu presque tout le livre de Josué. On a lu le Jéricho, on a lu la prise de Haï, la lapidation d'Akan dans la vallée d'Akor, hein. On a lu la bataille des eaux de Mérom, là-bas au nord, qui donne tout le nom du pays. Ici, alors, les Cananéens du coin apprennent que les Hébreux ont traversé le Jourdain, qu'ils ont anéanti déjà Jéricho et Haï, ils s'inquiètent, et les habitants de Gabaon apprirent la manière dont Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours à la ruse. Ils allèrent se munir de provisions, il faut simplement dire de très loin, pour ne pas être considérés comme des habitants du pays, que les Hébreux, comme ils sont Cananéens, idolâtres, par peur de contamination idolatrique, qui les supprime bel et bien. On n'est pas encore à l'époque de l'Évangile, on est à une époque, Dieu prend les hommes, encore une fois, tels qu'ils sont, là où ils en sont. Alors, ils ont des ânes fatigués, des vieux sacs, des vieilles outres à vin crevées et recousues. Ils avaient à leurs pieds de vieilles sandales rapiécées, et sur eux de vieux habits. Et tout le pain qu'ils ont porté pour leur nourriture était durci très vite en miettes. Ils arrivèrent au camp de Gilgal auprès de Josué et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, nous venons d'un pays lointain. Faites donc alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent assez vite, qui sait si vous n'habitez pas au milieu de nous? Comment pourrions-nous faire alliance avec vous? Oh, nous sommes tes serviteurs. Mais qui êtes-vous? Leur demanda Josué. D'où est-ce que vous sortez? On va dire, c'est d'un pays très éloigné que viennent tes serviteurs. On a entendu parler du Seigneur votre Dieu, de tout ce qu'il a fait en Égypte, etc. Nos anciens nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites donc alliance avec nous, regarde notre pain. Il était tout chaud, comme nous avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour aller chez vous. Et maintenant, voilà durci, réduit en miettes, ces outres à vin que nous avions remplis toute l'âme, les voilà crevés, nos sandales, nos vêtements, les voilà usés par une très longue marche, comme à la fin de la bestie. Les notables acceptèrent de leur provision et ne consultèrent pas l'oracle de Dieu. Alors Josué leur accorda la paix et il arriva que 3 jours après qu'ils aient fait alliance, on apprit qu'ils étaient un peuple voisin vivant au plein milieu d'Israël. Les Israélites partirent du camp et arrivèrent dans leur ville. Le 3e jour, c'était Gabaon, ce que nous avons là-bas en contrebas, Kephira, on les voit tous dans le pays là, Beeroth, c'est El Biré, du côté de Ramallah, et Kiryat Yarim, nous serons tout à l'heure. Kiryat Yarim. Les Israélites ne les attaquèrent pas, et alors on fait un statut aux Gabaonites, bon, une alliance est une alliance, on la respecte, on leur fait un statut de minorité, ils deviennent fondeurs de bois et porteurs d'eau au service de la communauté de l'autel de Dieu jusqu'aujourd'hui, au lieu qu'ils choisiraient. Alors, les rois cananéens, là, du pays que nous avons parcouru dans les premiers jours, s'inquiètent, le roi de Lachish, le roi de Piram, le roi de Yarmouth, le roi d'Eglon, etc., apprenant que les Gabaonites ont fait alliance avec ces conquérants, et ils montent une coalition pour les anéantir. Alors ils font appel à Josué. Josué monta de Gilgal au bord du Jourdain, la tête de pont qu'ils ont fait au bord du Jourdain après l'avoir traversé, lui et tous les gens de guerre et toute l'élite de l'armée. Dieu dit à Josué, ne les crains pas, je les ai livrés entre tes mains, nul d'entre eux ne te résistera. Josué arriva sur eux à l'improviste, après avoir marché toute la nuit, et Dieu les mit en déroute en présence d'Israël et leur infligea à Gabaon une rude défaite. Il les poursuivit même sur le chemin de la pente de Bétoron, queue de bataille sur le chemin de la pente de Bétoron, et les bâtit jusqu'à Azeka, tiens on y était le premier jour, jusqu'à Makkeda. Or tandis qu'ils fuyaient devant Israël à la descente de Bétoron, Dieu lança du ciel sur eux jusqu'à Azeka d'énormes grelons, et ils moururent. Ils en moururent plus sous les grelons que sous le tranchant de l'épée des Israélites. Et alors c'est à ce moment-là que Josué, enfin, c'est entre guillemets, et puis on sent que c'est rythmé, ça va être une espèce de chanson de marche, Hachemesh, Begibon, Dom, Yareharp et Makayalon, soleil arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste, le soleil se tint immobile au milieu du ciel, et près d'un jour entier retarda son coucher. C'est pas la peine de faire des calculs astronomiques, hein. C'est comme le fameux film qu'on a fait là, lors de la dernière guerre, le plus long jour de l'année, le jour le plus long. Voilà, simplement, tous les éléments se mettent de la partie pour favoriser le dessein de Dieu. Bon, alors cette bataille de Gabaon est tellement décisive que tout le sud du pays, par le fait même, est conquis. Comme la bataille de Mérom est décisive pour toute la partie nord du pays. Alors ces Gabaonites, tenez, il y a une famine au temps de Saül. Et on dit que Saül avait cherché à abattre les Gabaonites dans son zèle pour les Israélites et pour Juda. Toujours, il y a des gens qui veulent supprimer les minorités gênantes par des solutions simplistes. Ce problème n'a pas cessé d'être actuel. Et alors on montre ici dans la Bible que c'est grave de faire ça. Quand il y a une minorité, on doit la respecter. Et David alors se charge de réparer la situation. Et ici, à l'endroit où nous sommes, il y a des fils des descendants de Saül, 7, qui sont mis à mort au premier jour de la moisson, à la fête de la Pentecôte, au début de la moisson des orges. Et Ritzpa, fille d'Aïa, prit le sac et l'étendit pour elle sur le rocher depuis le début de la moisson des orges jusqu'à ce que l'eau tombât du ciel sur eux. Elle ne laissa pas s'abattre sur eux les oiseaux du ciel pendant le jour, ni les bêtes sauvages pendant la nuit. On connaissait ce récit autrefois lors de la fête de la Sainte Vierge, les 7 douleurs. Mais je fais exprès de faire comme l'Église nous apprend à le faire, de ne pas négliger ces textes de l'Ancien Testament. Vous sentez qu'ils sont actuels, il y a des tas de problèmes. Et il ne faut pas les résoudre à coup d'idéologie, il faut les résoudre en interrogeant la mémoire. Et je crois que, par exemple, les Juifs, dans tous les problèmes actuels qui se posent dans le pays, toutes ces routes nouvelles qu'on emprunte, tout ça, toutes ces questions de justice à respecter, vous ne les impressionnez pas du tout en invoquant des idéologies. Oui. Mais si, à partir de leur passé, de leur histoire passée, à ce moment-là, vous pouvez tirer des leçons. Et puis, avant de tirer des leçons, il faut se demander si nous-mêmes, on n'a pas à en prendre. Hein. Attention. Mais dans les journaux, ici, on voit certaines tendances politiques, quand il y a telle ou telle injustice qui est commise, ils invoquent la vigne de Naboth, ils invoquent des récits comme celui qu'on voit ici de violation du statut des Gabaonites, et ils montrent que c'est grave, et ça à les époques reculées, c'est le problème qui se pose maintenant. Et chez nous c'est la même chose, hein, nous ne faisons pas d'illusions, il y a des injustices partout, pas de morale de l'autruche. Et alors, Saint Paul, dans les épîtres à Timothée, montre l'importance de tout cela. Mais l'avantage de la BST, c'est qu'on lit les textes parce que simplement les paysages nous les proposent. Des textes que, bien souvent, on n'aurait jamais lus autrement. Par exemple, on a lu du côté de Dan l'histoire de Mika, et puis du bon Dieu que s'est fait Monsieur Mika Yahou. Et l'histoire du sanctuaire de Dan, on ne l'aurait jamais lu autrement. Et c'est plein d'enseignements. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit là-bas. Ici, c'est... Et alors, Saint Paul dit à Timothée, Timothée, c'est un garçon là, qui est devenu son disciple préféré. Et il dit que sa grand-mère lui a raconté la Bible dès son enfance. C'est curieux, dans le texte, il dit toujours qu'on a supprimé la grand-mère. Alors qu'au contraire, moi je crois que la grand-mère a un rôle considérable. Il y en a beaucoup dans la BST. Je leur fais prendre conscience du rôle très important qu'elles peuvent avoir. Il y a un historien actuellement, un certain Pierre Chaunu, qui dit que dans une société normalement constituée, la transmission du patrimoine culturel se fait de grands-parents à petits-enfants. Au fond, ceux qui sont engagés dans l'existence, ils font des briques, en fin de compte, fatalement, et ils n'ont plus le temps de penser aux choses vraiment importantes Et alors, ceux qui prennent leur retraite encore jeunes ont temps de faire des études, d'étudier la Bible, et ils peuvent la raconter aux gosses alors qu'ils sont encore à l'âge de l'émerveillement. Et Timothée a eu la chance d'avoir une grand-mère justement qui lui a raconté la Bible dès son enfance. Et saint Paul lui dit, pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris, et donc tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens, et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les Saintes Écritures. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Et il ne faut pas simplement répondre aux questions et prendre des textes pour répondre à des questions. Il faut avoir tous les textes dans la mémoire lorsqu'on aborde l'existence. Et si on veut rendre les gens capables d'aborder l'existence, il faut que leur mémoire personnelle, leur expérience personnelle, soit enrichie de cette expérience d'éternité, cette mémoire d'éternité. C'est encore un mot emprunté, je crois, à Chenu, cette mémoire d'éternité irremplaçable qu'est la Bible, qui ne nous enseigne pas des principes de morale, mais qui nous montre des hommes de chair et de sang devant des situations données. Et alors on s'oriente un petit peu comme on navigue, on fait le point, et puis on est appelé à faire son chemin à partir de cette expérience de multiforme qui nous est donnée dans la Bible. Et alors on déchiffre l'existence avec tout ce qu'on a assimilé dès sa plus tendre enfance. C'est important. Saint Paul met en garde Timothée contre toutes les paroles inutiles, tout cela. Et il lui dit de se consacrer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et ne pas négliger le don spirituel qui est en lui et d'y être tout entier. Et la lecture de l'Écriture prend une grande place dans tout cela. Et dans ce même épître, alors il dit de cesser d'enseigner des doctrines étrangères et de s'attacher à des fables plus propres à soulever de vains problèmes qu'à servir le dessein de Dieu fondé sur la foi.